Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Mémoire intime. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Dehors, je me sentais mieux, plus libre. Et si ce n'avait été que de moi, je me serais parti vivre au sol, hors du monde. Et j'avais peur d'être pris, donc j'allais au coiffeur. Mon retour, j'allais au salon avant d'aller dans ma chambre pour leur montrer que j'étais rentré. Je retrouvais mon père qui me dit : « Demain, tu retournes au lycée. » mère ajouta, « Ne te fais pas de soucis, nous avons dit que tu étais malade. Tu ne dis rien ? Tu veux retourner au lycée ?»«
Oui. »
Mon père haussa ses épaules et je sortis pour aller à ma chambre. Allongé sur mon lit, je me dis que je n'aurais jamais pensé que je retournerais au lycée. D'ailleurs, je ne pensais à rien. Cela me faisait bizarre de retourner là-bas comme si de rien n'était. Je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû revenir. Mais comment faire ? Et puis, j'avais pas envie de retourner là-bas au lycée. J'avais envie de rien. De rien. Lendemain matin, je retournais au lycée. Après 3 jours d'absence, j'avais l'impression que c'était après des années. Je ne reconnaissais plus rien, même pas mes camarades. Il est vrai que durant des mois, je vivais comme dans un nuage en ne voyant plus rien. J'étais inquiet et demandais si on n'allait pas me poser des questions sur mon absence. Mais non, rien. Peut-être que personne n'avait fait attention.
Alors, Matron, voilà. Rouillet. Quentin.
J'ai dit le courrier après l'étude.
Je vais devoir vous le répéter combien de fois. Monsieur Cabane, après l'étude, vous devriez aller vous faire déboucher les tuyaux. À l'infirmerie. Le premier qui se rend la poire, je l'expédie chez le surveillant général. Des lettres. Est-ce que j'en reçois, moi, des lettres ?
C'est bon. La journée se passa rapidement. J'avais la tête vide et travaillais comme un automate.
Il est quand même gonflé, ça.
J'étais malade.
Allez, debout. Allez, on chasse les rêves, là. Allez, c'est bien. Allez.
Je rentrais chez moi avec appréhension. J'avais le chemin qui me menait jusqu'à la maison. C'était la seule liberté. J'aurais aimé qu'il durât toujours. cauchemar la maison, sans mon père. Ma mère, le regard plein de reproches, qui surveillait mes faits et gestes. Je ne lui parlais pas et osais à peine l'embrasser avec le bout des lèvres. Elle me faisait froid et semblait me reprocher toujours la même chose. « Pourquoi es-tu parti ?» Et ce froid m'empêchait de lui répondre. Je sentais que pour elle, ce silence qui n'était dû que par sa conduite me rendait coupable d'être un fils indigne et de ne pas l'aimer, ce qui était faux. Les repas étaient terribles. Devant elle, je me sentais coupable. Je n'avais pas faim. Je ne voulais rien. Je voulais être seul, seul. Je n'avais pas d'avenir. J'étais qu'une loque coupable. Une loque de 16 ans. Coupable d'avoir aimé, trop aimé. Et c'était tout. Coupable d'avoir aimé pour la première fois. Aimé. Une image, certes, mais aimé. Aimer un rêve, mais aimer. J'étais puni de cela. Par les hommes, parce que cet amour m'avait isolé d'eux. Par la vie, parce que je la voulais que pour aimer. Je me disais que si mes parents savaient pourquoi j'avais fauté, ils en auraient été jaloux. Jaloux d'avoir donné mon corps à un inconnu, à quelqu'un d'autre de la famille. Hors de la famille. J'étais puni et je trouvais cette punition injuste et en même temps je ne voulais pas me rebeller car la vie ne m'intéressait pas. Les semaines passaient, je perdais l'appétit, je ne voulais rien ou que de choses qu'on me laisse en paix ou dormir, dormir pour oublier. Didier revenait de temps en temps dans mon esprit, mais je ne ressentais rien, je voulais oublier. J'avais vu son père, son visage laid, son rejet. Il m'arrivait dans ma chambre de pleurer pour rien. Je vivais au lycée comme dans un rêve, sans rien voir. À la maison, c'était le cauchemar et le remords. Chaque fois que je sentais rentrer chez moi et que je voyais mes parents, c'était le remords. Je me sentais coupable. Ne parlions plus entre nous. Il me regardait et se faisait des signes de tête ou des soupirs. Je les sentais en colère. Un soir, en sortant du salon, ma mère dit
« Il ne nous aime pas, il ne nous a jamais aimés. C'est dur de vivre avec une personne à qui l'on ne fait plus confiance. »
Je fermais la porte et j'entendis dans le couloir ma mère dire
« Je suis obligé de tout cacher, fermer à clé, de peur qu'ils ne nous veulent. J'ai plus confiance au domestique qu'en lui. »
J'étais rouge de honte. pouvais sortir sans que je dise où j'allais. Et le dimanche, je devais rester à la maison. Ma mère disait,
« On nous a dit de te surveiller. Tu es sous notre responsabilité. »
Alors, je passais mes dimanches à étudier et à m'allonger sur mon lit. Pendant des heures, je voulais sortir de ce monde, m'isoler de la vie. Malheureusement, je n'arrivais pas à dormir. Cela m'agaçait beaucoup. Un matin, en prenant mon petit déjeuner, ma mère me dit
« Tu ne vas pas au lycée ce matin. Je les ai prévenus. Tu viens avec nous. »
Je regardais surpris. Et nous avons pris un fiacre après le petit déjeuner. J'étais inquiet. Mes parents ne disaient rien. Le fiacre s'est arrêté devant un commissariat. J'étais de plus en plus inquiet. Nous sommes descendus du fiacre et entrés dans le commissariat. Père a dit à l'accueil,
« Nous sommes entendus par le commissaire. Vous êtes ? Je suis monsieur de J.
Bien, je vais voir. » Et il est sorti de la pièce. Mes parents ne disaient toujours rien. Moi, je ne pensais à rien. J'avais la tête vide. Je voulais m'enfoncer en moi-même. Je ne poussais à rien, mais en réalité, inconsciemment, j'avais peur de me dévoiler devant mes parents, peur qu'ils sachent que je sois parti par amour pour un garçon que je ne connaissais même pas et qu'ils ne connaissaient pas, eux. J'avais honte qu'ils me prennent pour un idiot ou un coupable. Ma fugue, c'était mon histoire à moi, et eux, ne pouvait y rentrer, il n'aurait rien compris. La porte s'est ouverte et le policier est venu nous dire qu'on nous attendait. J'ai suivi mes parents qui suivaient le policier. Je voulais m'isoler du monde, perdre connaissance, disparaître, ne plus rien voir. Je ne savais plus et en même temps, je savais que c'était impossible. Je me disais, à la grâce de Dieu, ce qui est, est. Nous prenions un escalier et au premier, on nous fit entrer dans une pièce. On se trouvait dans un bureau, des chaises, des murs gris et tristes. Un homme grand, mince, dans les 30 ans, cheveux châtains, habillé en costume gris, nous fit asseoir. J'étais entre mes parents. Le commissaire me regardait. Les deux mains tenaient son menton, les coudes sur la table. Je n'osais pas le regarder. Puis, il met la main sur la table et dit
« Je vous ai fait venir parce que le commissariat du arrondissement de Paris
m'a demandé de faire une enquête sur les faits de votre fils. J'étais effondré et honteux. Répondre à des questions sur mon histoire la plus intime devant mes parents. J'en étais incapable. Devant lui, cet inconnu, peut-être aurais-je été capable de dire quelque chose. Mais avec eux, non. J'avais trop honte. Ma tête bouillonnait. Mon cerveau se serrait. Je me disais, vivement que ce soit fini, mon Dieu, vivement que ce soit fini. Je voulais me retrouver seul, le vide. Je voulais oublier cette histoire dont on ne voulait que je me sente coupable. Et l'on faisait tout pour que je ne l'oublie pas. Mes parents, avec leur comportement, pour que je me sente coupable vis-à-vis d'eux. Et maintenant cet homme, la police. Moi qui croyais que je n'avais plus affaire à eux. Pendant que je pensais à tout ça, je baissais les yeux, car je sentais leur regard posé sur moi. J'entendis que le commissaire dire « Alors, jeune homme, pourquoi êtes-vous allé voir au lycée H, le jeune Didier H ?» Je ne répondis pas. Et puis quoi dire ? Et cette question me rappelait cette horrible aventure humiliante. Vous ne dites rien ? Je regarda mon père qui me dit « Réponds, dis-nous pourquoi tu t'es allé voir ce garçon ?» Je ne disais toujours rien. Le commissaire me dit « Vous connaissiez cette personne ?» Je ne répondais toujours pas. « Répondez, on me demande de faire une enquête sur cette affaire. Vous avez fugué, ce qui est très grave, pour aller voir un élève du lycée H à Paris. Le commissaire et la famille me demandent pourquoi vous vouliez voir. Répondez. » Je ne disais toujours rien. Je ne souhaitais que sortir de cette humiliation, tout oublier. Le commissaire me dit, « Vous connaissiez cette personne ?» Mon père, « Tu la connaissais ?» Je baissais la tête et ne dis rien. Le commissaire, exaspéré, dit à mes parents, « Il n'y a rien à en tirer. » Et me dit, « Je te préviens, si tu recommences à fuguer et à aller vers les enfants dans les établissements scolaires, tu iras chez le juge et on te fera parler cette fois. Si un enfant a disparu et qu'on l'ait vu avec une personne de ton signalement, tu auras affaire à nous. » Il dit à mes parents, « Votre fils est une tête de cochon. Il faudra le surveiller. Je vous souhaite bon courage. » On ne peut rien en tirer. Mais qui se tienne à carreau ? Votre place n'est pas ici, dans les commissariats. On trouve des clochards, des pauvres types ici, pas des gens comme vous. Je ne veux plus vous revoir. Avant que vous partiez, il faut que je vous dise. Vous êtes responsable des faits et gestes de ce jeune homme. Et je vous demande, c'est de le mener chez un médecin. Il n'est pas normal. À Paris, il y a certains médecins à la Salpêtrière qui traitent certains cas un peu spéciaux. Il faudrait peut-être le mener là-bas. Il se leva. Nous aussi. Et nous nous sommes retrouvés dehors. Nous ne parlions pas. Thank you.
arrivé chez moi, ma mère me dit « Cet après-midi, tu vas au lycée. » Je ne dis rien. J'avais honte et peur que le commissaire ait dit beaucoup plus de choses à mes parents sur mon affaire. Mais qu'aurait pu-t-il dire, étant donné que toute mon histoire s'était passée dans ma tête? Chose que le commissaire avait dit devant mes parents me faisait peur et honte. Il semblait penser que je faisais la sortie des écoles pour courir après les garçons. On ne parla plus de cette histoire passée au commissariat. Sauf une fois, ma mère, alors que je l'étais, a porté du linge dans sa chambre. Elle me dit,
« J'ai jamais été aussi humiliée que le jour où je suis allée au commissariat avec toi. Tu as entendu ce qu'il nous a dit? Et qu'as-tu dans la tête? Tu ne nous parles pas. Une vraie tête de cochon. En tout cas, fais attention à ce que tu fais. On te surveille. »
Avant que je monte me coucher, elle me dit
« Demain matin, j'ai pris rendez-vous avec un médecin. Veux-tu y aller ?»
Je rougis et dis « Non. »
« Bien, c'est le commissaire qui veut que tu ailles voir un médecin. Mais puisque tu ne veux pas, de toute façon, tu n'es pas fou. Je sais bien ce que tu fais. Tu es un vicieux, cachotier, égoïste. » Tu veux même pas nous parler. Pourquoi es-tu parti?
Je ne dis rien.
Tu ne nous aimes pas. Va dans ta chambre.
Qu'elle croit à cela, mais j'étais incapable de lui parler à cause de mon comportement et que je voulais oublier cette histoire. Ma mère était contente que je ne veuille pas voir un médecin, car elle ne croyait pas que je sois fou et ne voulait pas qu'un membre de la famille soit considéré comme fou. Et puis, elle ne croyait pas à ces médecins qui soi-disant soignent les fous ou les hommes.
Ce sont des charlatans, des charlatans.
Et mon père ne disait rien, pas peur de la vérité. Après ce qui s'était passé chez le commissaire, j'avais honte. Il me croyait épié. Et que l'on devinait toutes mes pensées. Je n'osais pas regarder un garçon de peur d'être épié. J'avais l'impression d'être mis à nu et que l'on
dévoile quelque chose de terrible sur moi. Je ne savais pas exactement quoi. Mais je pressentais que c'était quelque chose de terrible.
Margaret, écartez-vous, s'il vous plaît.
Du muguet, les clochettes du muguet se redressent.
Au lycée, comme à la maison, je ne parlais plus. J'avais qu'une distraction et je n'en voulais pas. Ne sortais pas, ne lisais pas, rien. Et je ne voyais aucun avenir. Longue où je cherchais le sommeil pour oublier. Un jour, je vis ma mère prendre avant d'aller se coucher des pilules pour dormir. L'idée me prit d'en prendre aussi. Je savais qu'elle les mettait dans l'armoire de la salle de bain. À minuit, alors que tous étaient endormis, je me levais et sortais de ma chambre. J'ai fait le moins de bruit possible pour aller dans la salle de bain. Une fois dans la salle de bain, j'allais ouvrir l'armoire à pharmacie. Je réussis à trouver facilement la boîte, petite et blanche. Il y avait des pilules. J'ouvris la boîte. J'en ai pris une. Elle avait un goût amer, pas du tout tragéifié. Puis, mis la boîte en place et retournai me coucher. Je me suis sorti. J'ai senti mon corps devenir léger. Je ne sentais plus le bout de mes extrémités. Je voyais un peu tourner autour de moi. Puis, je me suis endormi. Un sommeil profond, noir. Thank you. réveillai difficilement. La langue porteuse, mais bien, très bien. Je n'avais besoin de rien. J'étais bien. Je me suis levé, difficilement. Je n'avais pas à reprendre mes esprits. Durant toute la journée, je suis resté dans cet état, entre la veille et le sommeil, mais j'étais bien. Le soir venu, j'ai repris de ces pilules. J'en prenais tous les jours. Elles me soutenaient. J'étais bien toute la journée. Puis, un jour, elles furent moins efficaces. J'ai dû en prendre deux, puis trois. Elles me permettaient de rester dans un état second qui me plaisait. Un jour, une voix en moi me dit que l'on mourait d'amour. Que mourir d'amour était la chose la plus belle et que ma vie était perdue. Le besoin de me guérir était entré en moi. Malgré les pilules, je ne mangeais plus, je maigrissais, je ne faisais plus rien. J'étais une loque qui ne pensait qu'à mourir. Malgré les pilules. Au lycée, j'étais un zombie. À la maison, un fantôme. Et dans mes temps libres, je l'ai passé dans mon lit à souhaiter mourir. À quoi bon vivre? Je n'ai plus d'avenir. Je suis rejeté par amour. On m'a tout pris, même mes rêves. J'aimais être dans ma chambre, dans le noir, allongé, à me laisser aller. Comment des parents qui vivaient avec un fils de 16 ans, qui se laissait dépérir, ne voyait-il rien, ne faisait pas un geste pour l'aider? Mes parents à cette époque m'épiaient ou m'ignoraient. Ils se comportaient comme des geôliers et cela devait les arranger que je sois si sage. Mais les enfants sages sont quelquefois ceux qui sont le plus en péril et qui ont le plus besoin d'aide. Je m'enfonçais et mon entourage ne voyait rien. Je me négligeais, mes vêtements les gardaient longtemps et ne demandais jamais à les changer, même lorsqu'ils étaient usés. Ma mère aurait dû s'en apercevoir. J'étais devenu une vraie loque, un vrai squelette. Ne parlais plus, et si je parlais comme j'avais perdu l'habitude, je bégayais. Je sentais à chaque fois que quelqu'un était derrière moi ou lorsque j'entendais un bruit. J'avais une douleur étrange sous l'aisselle gauche. J'avais l'impression qu'à l'intérieur, un nerf se tordait. Cela me faisait mal. Pour avoir moins mal, je mettais souvent ma main sous cette aisselle. Au bout d'un moment, les comprimés ne faisaient plus effet et je dormis moins. J'étais seul. Je pleurais souvent et voulais mourir, mourir, mourir. Personne pour m'aider, me tendre la main. J'étais une épave et personne ne le voyait. C'était comme si j'étais déjà mort. Au lycée, je fus pris en plein cours d'étouffement, comme de l'asthme, et un besoin de pleurer. Le professeur me fut mené à l'infirmerie, où je restais allongé un moment, puis pu partir. Cela se produisit plusieurs fois.
C'est très bien. C'est très bien. Tout le monde a compris ?
Oui !
Pour moi, ça n'avait aucune importance. Je me dégradais et c'était tout. Les jours passaient ainsi. Au lycée, maigre, mal habillé, de vêtements râpés, un vieux manteau marine, des chaussures boueuses, le visage squelettique, yeux rouges, une main sous mon aisselle. Un après-midi que je passais dans un couloir pour partir, le professeur d'histoire, monsieur Poumon, un homme d'une trentaine d'années, grand, mince, le visage squelettique, avec des cheveux courts blonds, me rattrapa et me demanda « Vous allez bien, Pierre ?» J'étais surpris et ne savais pas quoi leur dire. C'était la première fois depuis des mois qu'on s'inquiétait de moi. « Vous allez bien ?» Depuis quelque temps, vous ne semblez pas bien. Vous avez du souci. Vous pouvez me parler si vous voulez. Je sentais que cet homme était bon et franc. Cela m'émut. J'avais la gorge serrée. Il me semblait tellement changé depuis l'année dernière. Et puis votre travail n'est pas aussi bon. Pouvez-vous me dire ce qui vous arrive ? Puis-je vous aider ? Je trouvais la force pour lui dire « Personne ne peut comprendre mes peines. C'est quelque chose que personne n'a connu. » Il me regarda bien et me dit « Ne dites pas cela. Il n'existe aucune peine que l'on puisse comprendre. Oui, mais la mienne C'est quelque chose dont je suis le seul à souffrir. Pense toujours ainsi, mais toutes les peines peuvent se comprendre, car on n'est pas le seul à souffrir sur terre. Vous avez raison, et je souffre de quelque chose qui n'a pas de nom. Toutes les peines ont un nom, pas la mienne. J'avais un mal inconnu, oui, si l'on veut, une maladie de l'âme. Vous voulez m'expliquer ? Pour que je puisse vous aider ? Non, vous avez honte ? C'est pas cela. J'ai peur de ne pas être compris. Moi, je peux vous comprendre, vous savez. J'ai été jeune. À quoi bon ? De toute façon, il est trop tard. Jamais trop tard. Pour moi, si, je dis. Que comptez-vous faire ? Rien. Je ne peux pas vivre dans cet état. Que pensent vos parents en vous voyant? Rien. J'aimerais leur parler. Surtout pas. Pourquoi? Il vaut mieux pas. Je vous en prie. Bien. Je n'en ferai rien. Mais à condition que si vous avez besoin d'aide, venez me voir. Je vous le promets. Et nous nous sommes quittés. Cela faisait longtemps que je n'avais autant parlé. Je ne sais pourquoi, mais j'ai ressenti de la joie. Je respirais mieux. Quelqu'un s'était intéressé à moi, avait vu ma détresse. Cela me faisait du bien. Les jours suivants, j'étais heureux de le revoir au cours. J'aimais le voir l'entendre, voir son regard se poser de temps en temps sur moi. Pour lui, j'essayais d'être plus attentif et d'améliorer mon travail. Mais c'était pas facile. J'avais pris une écriture nerveuse, pointue, presque illisible. Et j'avais des difficultés à se concentrer mes idées. Écrire en m'appliquant et faisant attention à ce que j'écrivais, cela me donnait mal à la tête. Mais petit à petit, je faisais des progrès. Lire aussi était très pénible. Se concentrer à ce que l'on lit, comprendre, ce n'est pas une mince affaire. Surtout qu'en réalité, aucun sujet ne m'intéressait. Après avoir lu le sujet de la pièce où Didier avait joué, le sujet qui était un roman et que j'avais lu, plus rien ne m'intéressait. J'étais à cette époque d'une timidité maladie terrible. Chaque fois que mes parents recevaient quelqu'un, soit pour le thé, à dîner ou à une soirée, je me cachais, avais honte et ne voulais voir personne. Je m'enfermais dans ma chambre. Avec des sueurs froides, la bonne venait m'apporter le repas. Et je restai enfermé jusqu'à ce que les invités soient partis. Canet vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Mémoire intime, dont c'était la troisième partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement.